février, il va y avoir du monde à la messe au salon 1861 dans Griffintown. Il est disponible en pré-vente au lacuvée.ca.
Mesdames, messieurs, les amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour tout le monde, bienvenue à la Photomédia, vous écoutez choc.ca. Aujourd'hui à l'émission, d'abord je me présente, Émilien Roscanou, je serai votre animateur. Autour de la table, nous avons nos chroniqueurs, Camila Rodriguez-Ca, également à la technique, Myriam Bernet, ainsi que Marie Chabot-Johnson. Donc aujourd'hui, beaucoup de pain sur la planche, nous allons avoir en deuxième partie d'émission également notre sujet principal qui est Uber, qui fait couler beaucoup d'encre, donc Uber et les taxis. Et nous avons en studio également Monsieur Wilson Jean-Paul, le représentant des propriétaires de taxis de Montréal. Donc, merci à tous d'être avec nous. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, parfait. Donc, maintenant, tout d'abord, on va commencer rapidement avec Marie Chabot-Johnson qui va nous parler, dans le fond, de toponymie.
Oui, quand on peut dire que les noms de rue peuvent avoir un impact politique, c'est exactement à ça qu'on a fait face cette semaine aux États-Unis. Il y a un projet de loi qui est passé au Sénat pour changer le nom d'une rue, passer de International Place à Liu Xiaobo Plaza. Pour ceux qui ne connaissent pas Liu Xiaobo, comme la plupart des gens, c'est un dissident chinois et ça tomberait que la rue sur laquelle il y aurait ce nom-là serait la rue de l'ambassade chinoise. Quand même, c'est comme tout un step politique que les États-Unis voulaient mettre avec ça, pouvoir promouvoir les droits humains, et ça a fait beaucoup de controverses aux États-Unis. La Chine est même venue à essayer de faire des pressions pour empêcher que la rue change de nom. En fait, pour juste une petite présentation pour les gens qui connaissent pas Liu Xiaobo, c'est un dissident chinois impliqué dans les événements de la place Tiananmen en 1989. Il avait publié un manifeste qui était allé contre la dictature en Chine. Il avait donné 19 changements pour une démocratie, puis on l'avait condamné pour 11 ans de prison en 2009, puis à ça, il avait eu le prix Nobel de la paix. Donc, ça serait quand même assez ironique de mettre un ambassade sur le nom d'un prisonnier chinois.
Oui, c'est sûr.
Ouais, donc la Chine le prend un peu comme une mauvaise blague, hein, pourquoi vous nous faites ça? Puis en plus, pour les gens qui ne le savent pas, c'est Ted Cruz qui met ça de l'avant, quand même le conservateur qui est présentement au républicain pour se présenter à l'investiture républicaine. Donc
Ouais. Oui, et puis mais dis-moi Marie, pourquoi un changement de nom aurait-il un tel impact?
Mais en fait, ça serait vraiment pour ça serait vraiment un peu pour comme un message politique. Donc, les États-Unis diraient comme ça à la Chine, comme on veut plus de respect pour les droits humains, mais en même temps, s'il n'y a pas grand-chose de fait, qu'est-ce que ça change? Il n'y a pas de pression économique, il n'y a pas de pression politique, donc ça serait vraiment juste symbolique. Mais de toute façon, on pense que la Chine va avoir gagné son pari parce que faut encore que ça passe à la Chambre des représentants et Obama a déjà dit qu'il mettrait son veto. Donc, tu sais, quand on n'est même pas capable de changer un nom de rue pour faire promouvoir les droits humains, ça veut dire déjà en partant que la Chine a un gros impact sur la politique américaine.
Oui, c'est sûr. Donc maintenant, on va passer avec Camila Rodriguez-Ca, qui va nous parler aujourd'hui du pape François Ier. Donc Camila, cette semaine, le pape a fait parler de lui en faisant une visite de 5 jours au Mexique. C'était la 7e fois qu'il s'y rendait et on a souvent l'impression que les Sud-Américains sont très pratiquants. Est-ce que c'est vrai? Peux-tu démystifier tout ça avec nous, s'il te plaît?
Règle générale, c'est vrai, mais les Sud-Américains sont pas une masse homogène. Si la majorité d'entre eux sont catholiques, il y a quand même une proportion grandissante de protestants en Amérique du Sud, proportion qui atteint même les 40% en Amérique centrale. C'est assez impressionnant puisqu'au début du 20e siècle, il y avait seulement 1% de protestants en Amérique du Sud, et ce pourcentage a maintenant atteint les 20%. À quoi c'est dû? Bon, durant les années 70, il y a eu plusieurs dictatures en Amérique du Sud et à ce moment-là, les hommes religieux chrétiens se sont rapprochés de la politique, sont devenus des militants politiques. L'Église chrétienne a alors perdu de son attrait et c'est l'Église évangélique qui a comblé ce vide-là. Cette Église-là avait une image beaucoup plus près des gens. Le Mexique, lui, est très loin de cette situation-là. C'est le deuxième pays où il y a le plus de chrétiens au monde. Là-bas, 83% des adultes se disent chrétiens.
Parlons-en justement du Mexique. Tu t'es penché sur la couverture médiatique mexicaine de la visite du pape. Qu'en est-il?
Oui, là-bas, c'était possible de suivre les mouvements du pape pas à pas, ce qui, en fait, n'est pas très différent de ce qu'on retrouve ici quand le pape vient au Québec ou même quand la reine d'Angleterre vient au Canada. Donc, il y avait un horaire très chargé. Le pape Francisco, comme on dit en espagnol, horaire qui était évidemment conçu selon ses priorités, qui sont la pauvreté, la corruption, évidemment. Puis, il a été critiqué parce qu'il n'a pas trouvé le temps ou il n'a pas voulu trouver le temps d'inclure des groupes qui militent contre la pédophilie dans les églises. Donc, il y a eu quelques scandales avec des prêtres pédophiles dernièrement à ce sujet-là. Autre scandale d'envergure différente, évidemment. La première dame, Angélica Rivera, qui était habillée tout de blanc pour recevoir le pape à son arrivée au Mexique, c'était une erreur protocolaire. On dit que les femmes, en présence de sa sainteté, ne doivent pas s'habiller de blanc, excepté les reines catholiques. Probablement parce que les femmes ne sont pas assez pures pour s'habiller de la même couleur que le pape. Ça nous ramène assez tristement à la condition parfois disons de la religion chrétienne dans certaines situations, de la place de la femme en religion, ce qui est assez paradoxal parce que le pape François est extrêmement apprécié. Il y a des taux d'approbation de 90% chez les chrétiens et de 70% chez les chrétiens et les non-chrétiens confondus, selon une recherche du Pew Research Center aux États-Unis.
Oui, on s'entend que le pape François est pas ce qu'on pourrait qualifier de conservateur. Donc, merci beaucoup Camilla pour ces précisions.
Ça fait plaisir.
On se quitte en chanson pour vous revenir tout de suite après. Donc, la chanson sera Jour 1 de Loud Larry Adjust.
I'm a rider, never doubt it. Blood spilled so the power breeze. I'm a rider, never doubt it. Money could be the baddest. I'm a rider, never doubt it. Blood spilled so the power breeze. I'm a rider, never doubt it. Money could be the baddest. Goddamn. See the multipliers. Fais en sorte que mon bread multiply. Few new joints dans mon dope supply. Si le team est trop gros, tout le dos se pas. So we stay close. Pas de nouveaux gars sur le payroll. Just the A1s, be the day ones. Keep a plug for the yayo. Better lay low. J'ai un semi-automatic pour les Saint Paul. And a fresh check on the line pour les bank bros. And I take it for a ride on Saint Low. And I'm always down for my day ones. What's up, big homie? Get your cake up. And I'm talking big money, pushes get cut. Serai toujours là si t'as besoin de quelqu'un. So how you feel, homie? Crazy shit about a young rap group. Few tattoos, don't be bad moods. Man, shout out, I'm a boy, Phil. Fuck around and get your boys killed. Man, shout out, I'm a boy, Will. Rap shit depuis jour 1. Tous les gars dans mon équipe partent en couronne. Tous les gars dans ton équipe partent en couronne. Goddamn!
Jour 1. Jour 1, c'est je peux te dis en face, mais je te bague dans ton dos, man. Tu peux dire ce que tu veux dans le champ, mais ça glace tire pendant ton nez, man. Tu connais les patinets, man. I don't know nobodies. Tout le monde est quelqu'un dans mon clic.
I'm a rider, never doubt it. Blood spilled so the power breeze. I'm a rider, never doubt it. Money could be the baddest. I'm a rider, never doubt it. Blood spilled so the power breeze. I'm a rider, never doubt it. Money could be the baddest. Goddamn.
Who the fuck told you about me? Who the fuck told you about us? Retire tes paroles, retire tes paroles. Don't you talk shit sur mes papiers, j'en demande encore. Who the fuck told you about me? Who the fuck told you about us? Retire tes paroles. Don't you talk shit on me, but I still demand encore.
Les routes tournent sur les canal line. Whole squad on the road now, what a life. Sunlight fade dans le rétroviseur. 6 heures qu'on roule libre comme l'air. Woke up kind of money down tomorrow night. Même chose tomorrow night. Next show, rentrez Montréalaise. Immortalize a young rap legend on the rise. Immortalize a young rap legend on the rise.
C'était comme un rêve quand j'étais jeune, laissé des journées derrière. J'ai lavé mon linge sale dans une sale com. Ma famille était VIP sur le balcon. J'ai laissé les partenaires avec le bracelet. On va party like it's back then, backstage. I've been in and out of love, in and out of money. J'ai perdu mon temps dans la mélancolie. Perdu ma tête dans un instant de folie. But I never lost faith on a homie count on me. Ah, toujours rock solid pour mes soldats. À chacun son hustle, then it's all love. On a booké des shows, then he showed up. Sold out clips, sold out like he sold drugs. Les gars sur qui j'peux compter, j'peux les compter sur mes doigts. Tu peux toujours tout me compter, j'vais pas compter ce que tu me dois. Larry sur mon côté gauche, Aja sur mon côté droit. Screaming they can't hold me back, nah nah they can't hold me back.
I'm a rider, never doubt it. Blood spilled sur le pare-brise. I'm a rider, never doubt it. Mon équipe be the baddest. I'm a rider, never doubt it. Blood spilled sur le pare-brise. I'm a rider, never doubt it. Mon équipe be the baddest, goddamn.
Who the fuck told you about me? Who the fuck told you about us? Prête sur tes paroles, prête sur tes paroles. Tant tu talk shit sur mes paroles, j'te demande en quoi. Who the fuck told you about me? Who the fuck told you about us? Prête sur tes paroles. Sur tes paroles, quand tu torches sur mes pattes, mais je te demande encore.
Rebienvenue à tous nos auditeurs sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez toujours La Photomédia. Donc, dans le deuxième segment d'émission, on consacre tout notre temps et tous nos esprits à la question d'Uber et les taxis qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps dans les médias. Donc, tout d'abord, il y aura une petite chronique avec Myriam qui va nous présenter un peu la situation. Et en deuxième partie, nous allons avoir une entrevue avec Wilson Jean-Paul qui, je le rappelle, est le représentant des propriétaires de taxis à Montréal. Donc, sans plus tarder, Myriam, comme on a pu voir dans les médias ces dernières semaines, la situation demeure difficile, et c'est peu dire, là, entre Uber et les taxis. Pourrais-tu faire le point sur ce qui se passe en ce moment?
Oui, en effet. En ce moment, la situation est très houleuse entre Uber et les taxis. Ces derniers ont d'ailleurs occupé plusieurs endroits du centre-ville hier, cela afin de dénoncer le refus du gouvernement Couillard de suspendre de force le service Uber X. En effet, il existe deux services, soit Uber qui engage des chauffeurs de taxi traditionnels et dont le coût de la course est le même qu'un autre service de taxi, et UberX qui concerne des chauffeurs privés. Et c'est bien là le centre de la discorde qui oppose ce service aux compagnies de taxi. Ces actions ont eu lieu alors qu'une commission parlementaire sur l'industrie du taxi débute aujourd'hui à Québec afin de débattre de la question. Selon des informations obtenues par la presse, Uber Québec accuse l'industrie du taxi d'être allergique au progrès, affirme que son existence n'entraînera pas la disparition de l'industrie traditionnelle du taxi et rappelle le caractère d'entreprise privée des taxis qui doit donc faire face à l'arrivée de nouveaux compétiteurs sur le marché.
Mais dis-moi, quels sont les reproches adressés au service Uber par les compagnies de taxi?
Parmi les faits reprochés à l'encontre d'Uber, il y a bien sûr le fait que les chauffeurs qui utilisent ce service n'aient pas à payer 200 000 $, soit la somme moyenne qui correspond au coût de la licence que les chauffeurs de taxi, eux, sont dans l'obligation de régler. Le député de Québec solidaire, Amir Kadir, accompagné de plusieurs chauffeurs de taxi, a d'ailleurs déposé ce matin une plainte officielle contre Uber auprès de la Sûreté du Québec. Et il considère en effet que les pratiques d'Uber constituent des infractions criminelles. Et à ce propos, rappelons tout de même que le service UberX demeure illégal au Québec et est notamment remis en cause sur sa fiscalité assez nébuleuse, sur la situation de ses employés qui ne sont pas traités comme tels, et sur son exercice d'une concurrence dite déloyale, et qui est mise en exergue par une politique de cassage des prix qui met à mal l'industrie des taxis.
Oui, donc on voit pourquoi ça fait pas que des heureux cette nouvelle arrivée dans l'industrie. Donc maintenant, merci beaucoup Myriam.
De rien.
Je vais passer avec notre entrevue de la journée avec Monsieur Wilson Jean-Paul, représentant des propriétaires de taxis de Montréal. Donc bonjour tout d'abord.
Bonjour, je salue tous les auditeurs de radio.
Oui, donc je vais commencer tout de suite. Si vous pouvez vous présenter un peu, c'est quoi votre rôle auprès des propriétaires de taxis?
Voilà, il y a un comité qui s'appelle Société paramunicipale de la ville de Montréal. Donc, il y a un comité de 11 membres. Donc, on a pris 4 membres qui sont élus par les pairs. Moi, je suis le représentant élu des propriétaires. Il y a un représentant des chauffeurs de taxi, un représentant du transport adapté et un représentant de la limousine. Les autres membres, les 7 membres, ce sont des membres qui sont choisis par la ville de Montréal. Donc voilà.
D'accord.
Et mon rôle, pour répondre à la question, c'est justement de faire partie de ce comité-là, c'est d'apporter les revendications des propriétaires au sein de la société paramunicipale.
D'accord. Et puis, donc dans le fond, si on pouvait ensemble expliquer un peu aux auditeurs à quel point la venue d'Uber affecte le travail d'un chauffeur de taxi à Montréal.
Bon, effectivement, quand Uber rentre dans une ville, il rentre par l'industrie taxi, à savoir que c'est la porte d'entrée.
Oui.
Il donne l'application aux chauffeurs qui ont des permis légaux, tout ça. Mais c'est une façon de préparer le terrain pour, en fait, pour s'asseoir une clientèle et après que la clientèle acquise, donc il va utiliser monsieur et madame tout le monde. Donc, en arrivant ici les 3 premiers mois, on voyait pas l'effet.
Oui.
C'est quand il a lancé son application de UberX, après quelques mois, on a constaté une baisse de 30% de nos revenus.
Ce qui est quand même énorme, le 30%. Donc,
c'est très énorme parce que ça prend 12 heures minimum pour faire un chiffre d'affaires, là, pour faire sa journée. Donc, quelqu'un qui vient, donc on est obligé, pour la même somme qu'on faisait avant, de faire 4 heures de plus. Donc, en moyenne, 16 heures de temps en arrière d'un volant, ce n'est pas un cadeau.
Non, exact. C'est vraiment énorme, là. 16 heures de travail. Mis à part tout ça, l'industrie d'Uber qui arrive comme ça de façon assez insidieuse force quand même l'industrie du taxi à faire des remises en question. De quelle façon est-ce que vous pensez que l'industrie du taxi à Montréal doit se renouveler?
C'est pour ça que j'ai apporté cette tablette-là.
Oui.
Cette tablette-là, je l'ai apportée, c'est parce que souvent j'ai entendu dire des politiciens, des journalistes, on dirait c'est la technologie.
Oui.
La technologie, on l'a, il y a 5 à 6 ans,
oui.
Depuis qu'on a cette prétendue technologie que Uber nous apporte. Ça, c'est une tablette. La première compagnie qui a abordé le système de géo-repartition, c'est la compagnie Diamond.
Oui.
Donc, toute la technologie, c'est le système de la géo-repartition. À savoir qu'il y a 10 ans de cela, les compagnies taxi avaient ce qu'on appelle les radios. Ce sont des radios qui ont fait le service de communication. Mais 10 ans depuis que la première compagnie Diamond et les autres compagnies s'en suivent, pour moi, Uber n'a pas changé grand-chose dans la technologie parce qu'on l'avait déjà.
Oui.
La seule façon que Uber a pu prendre d'élan, c'est en cassant le prix.
Oui. Donc, c'est vraiment de la concurrence déloyale. Là. Et puis, ce serait pas une histoire, dans le fond, ce serait pas sur le niveau technologique qu'Uber change les choses. Ce serait vraiment d'un côté plutôt économique et viendrait casser les prix pour pouvoir s'infiltrer dans le marché plus facilement.
Effectivement. Imaginez-vous bien, moi, je commençais à faire du taxi en 1994. À l'époque, le litre d'essence, ça valait à peu près 73 cents.
Oui.
De nos jours, bon, avec la baissée du prix de pétrole, ça en voisinage dans les 1,93 cents.
Oui.
Et c'était pas longtemps, c'était à 1,30 comme ça. Donc, imaginez-vous bien, 1994, le litre d'essence, ça valait 73 cents. Une course du centre-ville pour aller à l'aéroport, ça valait 25 $.
Oui.
Maintenant, avec l'arrivée de Uber, qu'est-ce qu'il fait? Il a cassé le prix. Le prix maintenant, c'est 40 dollars. Il a donné ça à 25 dollars.
Oui.
Donc, qu'est-ce que ça fait? Vous allez faire du gaz à 1 dollar et quelques sous, et vous allez toujours charger le même prix.
Oui, et ça, c'est sans compter aussi le coût des permis qui a explosé aussi dans le tournant des années 2000.
Même pour les produits de consommation. Moi, je suis un chauffeur taxi, j'ai une famille. Quand je rentre dans un maxi, là, je paie le litre de lait à 2 dollars, là, mais rendu en 1994, c'était 75 cents. Donc, c'est juste pour vous démontrer comment c'est déloyal, cette concurrence-là.
Oui. Et puis, dites-moi, de quelle façon pensez-vous que les taxis peuvent remporter la guerre d'opinion publique qu'ils se livrent en ce moment avec Uber? Un produit qui est somme toute quand même assez populaire, là, c'est surtout ça le problème. Donc, de quelle façon les taxis peuvent se mettre l'opinion publique de leur côté?
Je pense que ce qui s'était arrivé pour la fin de l'année, là, avec Uber a coupé le prix, là, mais c'est dans l'achalandage normal.
Oui.
Quand ça augmente, là, quand il n'y a plus d'achalandage, plus vous payez.
Oui.
Donc, il y a des gens qui se faisaient payer 4 fois la valeur de ce qu'ils devaient payer. C'est juste pour dire aux consommateurs, c'est vrai, moi, je ne parle pas de la technologie parce que la technologie, nous l'avons. Cette question du prix, on essaie de... comment dirais-je, de rendre tout à fait... On essaie de libéraliser l'industrie taxi.
Oui.
Mais ce n'est pas l'industrie taxi seulement qui va être libéralisée. C'est un système ubernisation, là, on parle de cela.
Et c'est sûr qu'avec une entreprise qui a des chiffres d'affaires de 60 milliards de dollars par année, qui a de l'argent pour traîner en justice là, pour des années durant l'industrie du taxi dans de nombreuses villes dans le monde, c'est sûr que la concurrence est pas très loyale. Donc, rapidement, là, pour terminer, on sait, c'est une idée reçue que l'industrie du taxi à Montréal, c'est un tremplin pour les communautés immigrantes, les nouveaux arrivants. Dites-moi, est-ce que c'est véridique? Et puis, comment est-ce que ça a un impact sur l'arrivée d'Uber sur cette industrie-là qui accueille beaucoup d'immigrants?
Bon, voilà, c'est une vérité parce que moi, quand je suis arrivé ici, on dirait que je n'étais pas pour faire du taxi, là. Donc, c'est sûr que j'ai une formation universitaire d'Haïti et je suis venu ici, j'ai continué mes études. Mais on dirait... C'est le travail qu'on trouve le plus facile.
Oui.
À savoir que si on a déjà des responsabilités, moi j'ai mes enfants qui étudient à l'UQAM, j'ai un autre qui étudie à une autre université, mes enfants ont le choix.
Oui.
Mais moi, avec les enfants, j'ai pas le choix. Donc, la plupart des immigrants qui sont dans l'industrie taxi, ce sont des immigrants qui ont déjà des responsabilités. Donc, il faut faire face à nos responsabilités.
C'est ça. Ils peuvent pas se permettre de, par exemple, pré-entamer des études universitaires quand ils ont une famille à nourrir et d'autres.
Effectivement, moi, j'ai eu 2 certificats ici à l'UQAM. Oui. Un certificat, ça m'a pris quasiment là, 2-3 ans. Là.
Oui.
Parce que je ne peux pas prendre des cours à temps plein, là. Donc ça me prend des cours à temps partiel.
C'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Jean-Paul. Donc je le rappelle aux auditeurs, vous étiez Wilson Jean-Paul, représentant des propriétaires de taxis de Montréal. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça a été un plaisir pour moi.
Donc on vous revient tout de suite après un petit pont musical.
Needing a friend for to follow, for to fend.
De retour à choc.ca, vous écoutez toujours La Photomédia. Donc, en troisième partie d'émission, nous allons entamer un petit débat sur cette question épineuse qui est la question des taxis et d'Uber à Montréal. Tout d'abord, je vais demander à mes amis ici présents, mes chroniqueurs, qu'est-ce que vous pensez d'Uber? Qu'est-ce que vous pensez des taxis? Êtes-vous pour, dans le fond, l'utilisation d'Uber? D'abord, Myriam.
Alors, en fait, moi, je suis vraiment très partagée. Je vous avouerai que j'ai utilisé Uber à plusieurs reprises ces derniers mois. En fait, un ami m'a parlé d'Uber, puis il faut dire que là-dessus, ils sont très bons parce qu'ils font des offres. Tu donnes un code à un ami, puis là, il a une course gratuite. Et c'est comme ça aussi qu'ils se font connaître. Et c'est comme ça que j'ai connu Uber. Donc, j'ai commencé à l'utiliser sans avoir vraiment conscience de l'impact que ça avait sur l'industrie du taxi. Pour moi, c'était vraiment la facilité. J'avais mon application sur mon smartphone. J'appelais ma voiture, elle arrivait, c'était déjà payé. Enfin, c'était vraiment rapide et pas cher. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a beaucoup plu. Le fait que ce soit pas très cher, étant étudiante, j'ai pas trop les moyens de me déplacer en taxi, il faut le dire. Puis c'est cet aspect qui m'a vraiment plu. Ensuite, concernant tout ce qui s'est passé ces derniers mois, que ce soit ici ou même en France, on en a beaucoup parlé aussi, j'ai été plus sensibilisée à ce que ça avait, les impacts que ça avait en fait, donc au niveau des taxis, au niveau aussi, surtout, des employés d'Uber. En fait, Uber ne les appelle même pas des employés, ils n'aiment pas ce terme apparemment, mais c'est quand même terrible de voir ce qu'ils gagnent par heure et on ne peut pas vivre décemment avec le salaire que Uber apporte, même si ces derniers se défendent en disant qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui font ça à temps partiel pour arrondir les fins de mois. Donc je suis quand même très très partagée sur la question.
Oui, ça c'est sans compter aussi tout l'aspect de l'évasion fiscale là,
oui.
que ça entraîne.
Oui,
parce
oui,
que
j'en
est-ce
ai parlé
que, est-ce
oui,
que les chauffeurs d'Uber déclarent leurs revenus nécessairement, ce qui est probablement pas le cas là. Et puis toi, Marie, qu'est-ce que tu pensais d'Uber?
Moi, en fait, j'étais aussi assez partagée au début. Je pense que je me suis fait un peu prendre dans l'esprit que Uber voulait porter, que c'était écologique, que c'était jeune, que c'était facile. Personnellement, je l'ai jamais utilisé, donc ça va pas... je me suis pas fait prendre à ce point-là. Mais c'est vrai que j'ai entendu parler beaucoup que... Tu sais, on pense que c'est écologique, mais pas nécessairement parce que ça fait finalement la même chose qu'un taxi, tu sais. Et finalement, est-ce que c'est vraiment plus nouveau, plus jeune? Ben pas nécessairement, c'est un concept qui va depuis assez longtemps. C'est juste que là, à cause que c'est par Internet, à cause que c'est à travers une application, on pense que c'est nouveau et tout. Là.
Et c'est surtout du marketing.
Mais Marie, dis-moi, pourquoi est-ce que ça serait écologique?
Mais c'est un peu l'idée qu'ils veulent essayer de promouvoir, justement. Mais c'est pas nécessairement écologique plus. C'est parce qu'ils disent que finalement, on finit par réutiliser plus les autos, puis que les gens, puisque c'est plus facile, ils vont pas nécessairement... qu'il n'y avait pas nécessairement à prendre un taxi, mais puisqu'ils sont chez eux, ils vont commander directement puis ils vont pas utiliser leur auto. Mais est-ce que les gens qui commandent un Uber auraient utilisé leur auto autrement? Moi, je crois pas.
Non, mais c'est ça. Dans le fond, allez-y.
Oui, j'aimerais intervenir sur le mot écologique. Imaginez-vous bien, il y a 4500 taxis à Montréal qui fonctionnent 24 heures sur 24. Si vous ajoutez les chauffeurs UberX, là, ça va faire un peu plus de taxis sur la route, là. Et surtout, il y a un système, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Théo. C'est une voiture électrique, là, purement électrique. Donc, on peut comprendre cette méthode-là avec M. Taillefer, mais pas avec Uber, parce que c'est n'importe quelle voiture, là, les grosses voitures, les petites voitures là, qui font du taxi.
C'est ça, donc il faudrait plutôt travailler avec les taxis plutôt qu'à leur rencontre. C'est un peu ça qui ressort du débat, Myriam?
Oui, c'est ça. Dans le fond, Uber, ils sont quand même très, très forts en marketing parce qu'on pourrait penser à toutes ces choses, l'écologie, c'est jeune, c'est technologique et tout ça, mais au final, ils font exactement ce que les taxis font. C'est rien de plus, rien de moins. C'est ça, c'est exactement ça. Je commande ma voiture, je paye pour ça, c'est vraiment ça. Donc, la même job que les taxis.
Oui, ben merci pour ces belles paroles. Donc, c'est ce qui conclut notre débat. Donc, je vous remercie encore d'avoir été avec nous. Myriam Bernet, ainsi que Marie Chabot-Johnson au micro, ainsi que Camila Rodriguez-Ca. Monsieur Jean-Paul également qui était avec nous, qui représentait les propriétaires de taxis de Montréal. Encore une fois au micro, Émilien Roscanou. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On sera de retour la semaine prochaine à 17h pour une autre émission de La Photomédia sur choc.ca. Je vous laisse maintenant en musique avec My Lighthouse de Villagers.
You are needing a friend for to follow, for to fend. And I haven't got a clue if I'm getting through to you, my
I am searching the tide in a vessel in the storm, and you're the kind host in the port, my lighthouse. And we'll be there to right our wrongs, and the time it took to write this song, and we'll beat the ghost with our bare hands, and we'll skin the corpse, and we'll love and laugh, and we'll dance all everlasting day, and you'll sing to me everything I meant to say, and we'll drink to the gentle, the meek,